BW. Droits et libertés.
Un peu plus d'un mois maintenant, c'était le 20 octobre, des manifestations à l'appel de l'opposition ont été réprimées dans le sang au Tchad. Ces marches dans différentes villes contestaient la transition telle que menée par Mahamat Idriss Déby Itno. Il n'existe toujours pas de bilan précis du nombre de victimes de cette répression. De nombreuses personnes arrêtées durant les manifestations ou les jours suivants sont toujours portées disparues. Cet événement marque un tournant alors que venait d'être constitué un gouvernement d'union nationale dirigé par l'ancien opposant Saleh Kebzabo. Le chercheur Wolfram Lacha de l'Institut allemand des affaires internationales et de la sécurité, la SVP à Berlin, vient de publier un article sur la transition émaillée de crises en cours dans le pays. Il est notre invité cette semaine, Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Wolfram Lacha, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier un article pour la SVP qui concerne les crises qui émaillent la transition en cours au Tchad. Et dans votre article, vous revenez notamment sur la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby et vous estimez que la réaction de l'Union africaine au moment de cette prise de pouvoir a été influencée par le fait que c'est Moussa Faki Mahamat qui est et qui est toujours le chef de la commission de l'Union africaine, lui-même tchadien, ancien chef de la diplomatie du Tchad. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Pourquoi est-ce que vous pensez ça?
Bien sûr que Moussa Faki n'a pas été le seul à influencer la position de l'Union africaine envers la prise de pouvoir de Mahamat Déby et du Conseil militaire de transition au Tchad. Mais si on se souvient comment ça s'était joué à l'époque, la position de l'Union africaine à ne pas considérer cette prise de pouvoir comme un coup d'État a été basée à l'époque sur la promesse que les membres du Conseil militaire de transition, y compris Mahamat Déby, n'allaient pas se présenter à des élections présidentielles, ce qui aurait permis à Moussa Faki de se présenter, et non seulement de se présenter, mais aussi d'avoir des chances à remporter des élections. Et je pense qu'on voit maintenant que Moussa Faki a remis un rapport accablant au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui appelait à des sanctions contre le Tchad. On voit maintenant dans ce rapport que cet arrangement implicite, je pense, n'a pas tenu.
Revenons brièvement sur le dialogue national qui s'est tenu jusqu'en octobre avec le pré-dialogue avant au Qatar. Selon vous, est-ce que, et si oui, quels aspects positifs ces consultations ont-elles eu?
Les participants au dialogue national avec lesquels j'ai pu m'entretenir après la clôture des travaux, la plupart disaient que effectivement, c'était le choix des participants était largement en faveur des représentants du MPS, du parti au pouvoir, et malgré le boycott des forces de l'opposition les plus importantes.
Oui, le FACT aussi notamment, qui est quand même un des grands mouvements armés du moment.
Absolument, absolument, et malgré cela, les participants au dialogue avec lesquels j'ai pu parler était quand même de l'avis que des questions fondamentales ont été mises sur la table, mais ces mêmes participants sont, avec très peu d'exceptions, extrêmement négatifs sur la façon dans laquelle les conclusions du dialogue ont ensuite été adoptées, sans vote, sans prendre en compte le contenu des discussions. Il y a un très fort sentiment que ce dialogue était en fait ficelé d'avance.
Pourtant, depuis, il a été formé un gouvernement d'union nationale avec à sa tête Saleh Kebzabo, qui était l'opposant historique numéro un. Donc on pourrait penser que différentes couleurs politiques sont enfin représentées au sein de l'exécutif tchadien. Et pourtant, vous parlez d'un changement cosmétique. Pourquoi ?
Parce qu'on voit dans cette formation du gouvernement de Kebzabo, dite d'unité nationale, qu'il s'agit de coopter quelques opposants, quelques figures de l'opposition, sans remettre en cause le pouvoir du régime de Déby qui continue. Et on a vu dans les réactions envers la formation de ce gouvernement que Kebzabo lui-même n'est pas considéré aujourd'hui comme vraiment représentant une véritable opposition. Ça, aujourd'hui, ce sont d'autres forces politiques, notamment les transformateurs de Succès Masra ou encore la coalition Waketama. Et eux, bien sûr, ils étaient exclus de ce gouvernement. Donc il semblait y avoir un départ là, mais je pense que depuis le temps, on commence à voir qu'il s'agit là, encore une fois, d'une pratique de coopter des individus sans vraiment mettre en cause la mainprise d'une élite très restreinte, cette mainprise sur le pouvoir. Et donc là, il y a vraiment une continuité avec le régime de Déby père.
Et dans votre publication, vous notez aussi que dans le discours public, que ce soit de la part du pouvoir ou aussi d'un Succès Masra qui s'y oppose, il y a de plus en plus d'arguments identitaires qui sont annoncés, avancés au Tchad. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et puis est-ce que selon vous, ça peut avoir des répercussions sur la suite des événements?
Alors, la mobilisation par les transformateurs, la mobilisation du 20 octobre, ces manifestations qui ont eu lieu le 20 octobre, ont eu lieu essentiellement dans des quartiers dits sudistes de N'Djamena et dans certaines villes du sud. C'est vraiment cette base-là que Succès Masra a réussi à mobiliser. Et on a vu que pendant et après ces manifestations, le régime, d'un côté, le régime a attisé la peur dans les populations nordistes que cette mobilisation serait dirigée contre eux. On a par exemple vu une campagne sur les réseaux sociaux où des comptes ont essayé de souligner des cas de lynchage qui auraient eu lieu à Mundu, dans le sud notamment, et des commerces qui auraient été attaqués sur la base, selon le récit, sur la base que leurs propriétaires seraient identifiés comme nordistes. Donc c'est une stratégie de diviser la population pour empêcher une mobilisation plus large. Et d'un autre côté, Succès Masra, par exemple, s'est prononcé après le 20 octobre en dénonçant que le régime cible une communauté en particulier.
Globalement, au-delà des différences ethniques, des différentes communautés qui vivent au Tchad, entre le nord et le sud, il y a aussi la barrière religieuse avec, en gros, un sud plus chrétien et un nord plus musulman.
Ça en fait partie et tout cela, bien sûr, fait aussi référence à toute une histoire.
Mais qui remonte même à Hissène Habré ou à...
Voilà, donc une histoire de répression, que ce soit dans les années 60-70, d'une armée dominée par des sudistes dans les régions du Nord, et après, sous Déby, l'inverse qui était le cas.
Alors, vous avez évoqué les manifestations du 20 octobre dernier. Elles se sont soldées par une répression féroce. Le gouvernement a accepté finalement que soit instaurée une commission d'enquête internationale. Est-ce que c'est un signe positif? Est-ce que ça suscite un espoir que l'on sache ce qui s'est réellement passé et avoir un bilan plus précis selon vous?
Bon, je pense que c'est sûrement un pas positif, surtout sur les victimes et les proches des victimes, de voir une enquête internationale. Il faut bien sûr voir dans quelles conditions ces enquêteurs pourront travailler. Mais j'ajouterais aussi qu'il semble aussi que la pression internationale, tant qu'elle existe, s'est vraiment concentrée sur cette question de l'enquête et qu'en même temps, il ne semble plus être à l'ordre du jour de remettre la prolongation de la transition en cause. Et cette question de l'éligibilité de Mohamed Déby et des autres membres du Conseil militaire de transition semblent avoir été avalés.
Et ce qu'on a aussi beaucoup entendu, c'est qu'il y avait deux poids, deux mesures, notamment du côté de la France, qu'elle n'aurait pas réagi et agi de la même façon vis-à-vis du Tchad que vis-à-vis du Mali, par exemple, où là, le putsch militaire, ou les putschs militaires ont été reconnus comme tels, et la France a réagi assez vertement, assez fortement. Au Tchad, quelle est la position et le rôle que joue encore la France ? Et est-ce que elle a un intérêt, elle a une alternance démocratique ou pas ?
Bon, alors le rôle de la France est majeur. Au Tchad, avec la présence militaire française dans le pays, qui représente une garantie sécuritaire pour le régime en place, et on l'a vu lors de l'offensive des rebelles du FACT en 2021, que l'appui français en renseignement, en logistique, a été très important pour la défaite de cette offensive. Tout cela se passe dans un contexte régional où la France a perdu beaucoup d'influence. L'analyse, c'est que, à la fois la stabilité et le fait d'avoir un gouvernement allié au Tchad est assuré par le pouvoir en place et que cette stabilité et le fait d'avoir un allié serait beaucoup plus incertain avec une ouverture politique qui déclencherait des luttes pour le pouvoir. Et c'est pourquoi le gouvernement français a sans doute un intérêt à voir une transition qui se fait avec le moins de violence possible, avec une semblance d'inclusivité, mais n'a sans doute pas d'intérêt dans une réelle alternance dont l'issue pourrait être beaucoup plus incertaine.
Wolfram Lacha, un grand merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Wolfram Lacha de la SVP à Berlin. Pour podcaster cette émission, rien de plus simple, allez voir sur dw.com/français à la rubrique « Nos podcasts » ou tout simplement sur vos plateformes habituelles de balado-diffusion. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.